C'est bon, merci beaucoup, Alex. Bonjour à tous. Hey, hey, moi, en m'en venant ici, là, j'ai eu un petit peu le choc parce que j'ai rencontré plein de monde qui était à l'église à Moscou où j'étais avant. Alors, c'est presque en famille, mais je suis en famille parce que l'église du Sentier fait partie de la grande famille de l'association, mais aussi parce qu'il y a plein d'hommes, plein de femmes que j'aime beaucoup. Alors, c'est un privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis avec, comme Alex l'a mentionné, le directeur général de SAMBEC, et c'est pour ça qu'on appelle ça la tournée des DG. Alors, on a commencé ça cette année, on se promène un peu partout à travers la province pour toujours garder notre association ensemble, puis aller dans la même direction. François et moi, on est des passionnés de Dieu, des passionnés de l'Évangile et des passionnés de l'Église locale. Et en venant ici ce matin, bien, ça, vraiment, ça nous apportait beaucoup de joie parce qu'on est ici pour travailler le rêve que nous avons dans notre association. Peut-être que c'est nouveau pour vous. Il y a un contre-son. Est-ce que c'est mon micro qui fait ça, Joël? Il y a un contre-son. Je ne sais pas pourquoi il y a un contre-son. Alors, donc, le rêve de l'association. Oh, mon ami, on a perdu ça. Enfin, vous êtes correct, c'est ça qui est important. Le rêve de l'association est de contribuer à bâtir une province solidaire par le mouvement de l'Évangile qui engendre des conversions personnelles, des communautés en mission, une société de plus en plus juste et le renouvellement de la culture dans le Québec et la francophonie. Lorsque je partage ce rêve, bien des gens qui disent que ce n'est pas un rêve qui est réaliste et c'est pour ça qu'on appelle ça un rêve. Alors, on le sait, c'est... Quand on rêve, ma mère, elle aimait ça, elle, faire la vaisselle, puis on était 8 enfants, c'était quelque chose. Puis elle, ça ne la dérangeait pas de faire la vaisselle parce qu'elle disait, je rêve quand je fais la vaisselle. Puis c'est vrai, elle a rêvé d'aller en Chine, elle était en Chine. Puis elle disait toujours, un rêve, ça ne coûte pas cher. Alors rêver, on peut penser à des grandes choses pour notre association et certainement, surtout lorsqu'on mentionne ici qu'on veut être solidaire par le mouvement d'Évangile, c'est qu'on ne veut pas que ce soit le rêve de quelques personnes, mais vraiment le rêve de nos églises, votre rêve, votre désir qu'on soit solidaire par l'Évangile, puis d'avoir un impact sur notre communauté, sur notre société. Moi, avant de connaître l'Évangile, mon rêve, c'était de devenir un révolutionnaire. J'étais prête à vraiment donner ma vie pour changer le monde, faire la révolution, j'étais prête à poser des bombes, je voulais changer le monde. Jusqu'au jour où j'ai compris que ce qui change vraiment le monde, ce n'est pas les bombes, ce n'est pas les systèmes sociaux, c'est l'Évangile. Amen? Hey, puis ça commence, vous savez, au niveau du cœur, ça commence par mon propre cœur. Hein? Ma haine que j'avais, surtout dire ça dans une église ici à côté d'Ottawa, ma haine que j'avais pour les anglophones, c'était monumental. C'est pour ça d'ailleurs que je parle tellement mal anglais ou encore aujourd'hui, parce que quand c'était le temps d'apprendre l'anglais, je voulais pas l'apprendre. Mais aujourd'hui, Dieu a tellement changé mon cœur, puis il a commencé par mon propre cœur, il a changé le cœur de mon épouse, il a changé le cœur de ma sœur, et là, tu as un vrai impact. Mais imaginez quand c'est contagieux. Imaginez là, quand il y a une société, là, une ville là, qui est touchée par l'Évangile. Là. Quand il y a eu des réveils là, dans l'histoire de l'Église, c'était tellement excitant. Et les bars fermaient. Je partageais ça hier avec vos leaders. Même les chevaux étaient affectés par les réveils. Vous savez pourquoi? Parce que les propriétaires de chevaux étaient transformés par l'Évangile, ils ne pouvaient plus blasphémer pour faire avancer les chevaux. Alors, les chevaux ne savaient plus comment être dirigés. Hey, ça, c'est tout un impact quand même les chevaux sont touchés par l'Évangile. Hein? Mais c'est ça, avoir un impact sur la société, un impact sur la communauté. Moi, je crois que l'Évangile, c'est le plus beau et le plus merveilleux des messages. La plus belle cause. Moi, je veux mourir pour ça. Je suis devenu directeur général à 59 ans, puis ce n'était pas ma carrière, ce n'était pas mon choix de carrière, devenir directeur général. Mais mon choix de carrière, me voir en train de pêcher à la mouche, pêcher la chigarre dans l'Outaouais, peut-être dans le ciel, il y en aura, puis ils vont être plus faciles à attraper. Mais en attendant, ce n'est pas ça que je veux faire. Oui, je veux le faire un peu, mais je veux surtout m'y donner profondément, passionnément, pour l'Évangile. Et je suis ici ce matin pour partager avec vous ce rêve. Je suis ici ce matin pour parler un peu, et là j'ai peu de temps, mon ami François va venir dans quelques instants contribuer à ce message, mais j'aimerais qu'on puisse lire ensemble un passage bien connu. Je vous invite à tourner dans Matthieu, chapitre 16. Un passage classique, mais souvent, nous, les chrétiens, on peut savoir des choses dans la tête, mais on ne le vit pas nécessairement dans nos vies. Notre tête est déconnectée avec notre cœur ou déconnectée avec notre vie. Et il faut connecter ça ensemble. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle du renouvellement de l'intelligence. Se rappeler c'est quoi qui est important, c'est quoi que Dieu veut, pas suivre ce qui est notre penchant naturel. Et dans Matthieu chapitre 16, on peut lire à partir du verset 16 pour comprendre le contexte. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, et l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il y a une histoire qui nous rapporte, mais ce n'est pas vraiment une histoire parce que c'est vrai. Dans la ville du célèbre Hippocrate, on retrouve ce vieil olivier de 2400 ans. 2400 ans, et ce qu'il a de particulier, c'est que son tronc est creux. Il a seulement quelques branches, ici et là, aux deux, trois pieds, quelques feuilles. On peut l'appeler encore olivier, mais c'est un olivier mourant. Mais tout autour de cet olivier-là, on peut voir d'autres semences, d'autres petits oliviers verdoyants, en santé, portant beaucoup de fruits, beaucoup d'olives. Et cette image est vraiment celle de l'histoire de l'Église. Au travers de l'histoire de l'Église, il y a eu des implantations, il y a eu des arbres qui ont été plantés, qui ont été verdoyants, en santé, pleins de fruits, mais qui, avec les années, est devenu morte. De l'extérieur, on peut encore reconnaître que c'est un olivier, mais la réalité, c'est qu'elle est morte. Mais heureusement que Jésus, au travers de l'histoire de l'Église de 2000 ans, continue de semer des oliviers et qu'il y a encore des églises et que ces églises-là deviennent aussi verdoyantes. C'est la bonne nouvelle, c'est que même s'il y a des églises qui meurent au travers de l'histoire de l'Église, parce que tous et chacun de nous, on sait très bien qu'on n'a jamais célébré des églises. Là. On fait ça, ça fait 40 ans qu'on existe, ça fait 60 ans qu'on existe, mais on ne célèbre pas vraiment la naissance d'une église qui a 1500 ans. Parce que tôt ou tard, elle meurt. Mais quand même si elle meurt, la bonne nouvelle, c'est que Jésus continue d'implanter puis de planter d'autres petites églises ici et là. C'est l'accomplissement de la promesse. J'aime ce passage dans Matthieu chapitre 4, qui raconte à quoi va ressembler le royaume. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme dans un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît et sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord de l'herbe, puis de l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparons-nous le royaume de Dieu et par quelle parabole le présenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte et devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Dans ces deux paraboles-là, on n'a pas le temps de les étudier, mais c'est ce que Jésus est en train de nous dire. Il est en train d'instruire du moins ses disciples à quoi le royaume va ressembler, à quoi l'Église va ressembler. Et là, il dit que l'Église commence toute petite, mais ne vous découragez pas, ils sont juste 11 disciples. Ils sont une centaine au début des Actes. Mais ce petit groupe-là, il va se multiplier. Et on a vu l'histoire de l'Église, l'accomplissement de ces paraboles-là, où l'Église vraiment s'est multipliée. Et heureusement, elle dépend de Jésus et c'est Jésus qui continue de bâtir son Église. Malgré les difficultés, malgré que plusieurs vont mourir, Jésus continue de bâtir son Église. Donc, les églises vont mourir, d'autres vont grandir, mais celles qui vont comprendre véritablement leur identité, ce sont celles qui vont rester en santé et en vie. C'est pour ça qu'on aime partager partout à travers la province, François et moi, qu'une église, c'est quoi une église en santé? C'est une église en santé et en mission, et on va vous le décrire tantôt à quoi ça ressemble. Lorsque Jésus dit « Je bâtirai mon église », il fait, comme on sait, et certains vous savez, ça ne fait pas référence au bâtiment. Le mot « église » dans le grec classique désignait l'assemblée plénière des citoyens qui était appelée à la gestion des affaires publiques. Donc, l'origine de ce mot est même païen. Mais le terme va garder la distinction en ce qui concerne l'église. Par exemple, les Juifs d'influence grecque ont utilisé le mot « église » pour désigner l'assemblée du peuple d'Israël sous le regard de Dieu. Mais cette même signification-là a continué son existence au travers le Nouveau Testament, au travers les Actes des apôtres. Le terme implique un jugement de valeur. C'est pour ça qu'on va dire l'Église de Dieu ou l'Assemblée de Dieu. Dans les Actes, l'Apocalypse et première épître de Paul, ils utilisent le mot « Église » toujours pour désigner une assemblée locale, bien définie. Dans les dernières lettres de Colosse et Éphésiens, Paul utilise le mot « Église » pour désigner le corps unifié de tout le peuple de Dieu réuni sous un seul chef, Jésus-Christ. Mais comme le croyant est à l'Église sur la terre et dans le ciel, il s'exprime particulièrement dans un lieu local. Mais tous les croyants ensemble de toutes les localités, de toutes les époques, de toutes les nationalités, on l'appelle communément l'Église universelle. Mais dans la pratique, on est capable de la visualiser dans des villes comme Rome, des villes comme Colosse, Éphèse ou Gatineau. Maintenant, comme ça fait 2000 ans, comme je le mentionnais tantôt, que Jésus construit son Église, certaines vont grandir, d'autres vont mourir. Et même c'est pour ça que Jésus a dit dans l'Apocalypse, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc Jésus, dans l'histoire de l'Église, a enlevé des chandeliers, il a éteint des lumières. Comme pasteur, j'ai été pasteur 30 ans à la même Église, c'était une obsession que j'avais. Je ne veux pas devenir pasteur d'une Église morte, Et c'est pour ça qu'on a besoin toujours de réfléchir, puis de se questionner, puis de mettre l'Église devant Dieu. Puis de dire, Seigneur, c'est quoi qu'on a besoin de se repentir? C'est quoi, Seigneur, qu'on a besoin de travailler? C'est quoi, Seigneur, que tu veux changer? Lorsqu'on était avec vos leaders hier, on a réfléchi justement à ça. Qu'est-ce que l'Église du sentier a besoin de travailler? Et ici, ce matin, je suis en train de vous poser la même question. Qu'est-ce que dans vos vies, vous avez besoin de travailler parce que l'Église, c'est la composition de tous ses membres. Ce n'est pas juste son leadership, c'est chaque membre de l'Église qui contribue à la santé ou à la mort de l'Église. Mais la vraie question, c'est comment est-ce que toi, dans ce qu'on va regarder ensemble ce matin, où tu en es rendu, où tu es rendu dans ta vie? Est-ce que tu es en train de réfléchir où tu es rendu dans l'aspect de partager ta foi, où tu es rendu dans ton aspect de grandir, où tu es rendu dans ton aspect de t'équiper? C'est la responsabilité de toute l'Église. Et c'est pour ça que je vous en parle à vous ce matin. On a tendance parfois à s'exclure et à dire « Ah, il n'y a pas d'amour dans cette Église-là. Oh, » J'ai entendu ça dans ma propre Église. À vrai dire, je n'aime pas ça, dire « Mon Église ». C'est son Église. Mais dans l'Église de Mascouche, on a déjà dit ça. Mais moi, ça me blesse un peu parce que moi, j'aime. Moi, il n'y a peut-être pas beaucoup de monde qui aime, mais moi, je t'aime. Mais la vraie question, c'est est-ce que toi, t'aimes? Parce que c'est facile de prendre un regard et de dire « Ah, l'Église est comme ci ou l'Église est comme ça. » Mais hey, wake up! Tu fais partie de l'Église, hein? Et l'Église est l'expression des gens qui la composent. Alors, la vraie question, c'est toi où t'es rendu? C'est vrai que les leaders, ils ont une grande responsabilité, puis les leaders vont avoir des comptes à rendre. Mais pas juste les leaders. Chaque membre de l'Église, de quelle façon ils ont contribué aux nuits, à la santé d'une Église. On a décidé comme association de choisir un modèle du Nouveau Testament pour essayer de visualiser à quoi ressemble une Église en santé et en mission. Une Église en santé et en mission, c'est l'Église d'Antioche. Lorsqu'on regarde au travers des Actes des apôtres, on voit des caractéristiques dans cette Église-là qui correspondent à une Église en santé et en mission. Et nous, on aimerait vous inviter à devenir une Église d'Antioche. Et comme je l'ai partagé avec les leaders hier, ce qui est important, ce n'est pas tellement où on est rendu. C'est pareil comme pour nos vies chrétiennes. Dans nos vies chrétiennes, on peut se décourager parce qu'on se dit « Ah, mon ami, j'ai tellement de travail à faire dans ce domaine-là. Ah, j'ai tellement de travail à faire dans ce domaine-là. Ah, j'ai tellement de travail à faire dans ce domaine-là. » Ça, moi, vous le dire franchement, c'est secondaire. Ce qui est le plus important, c'est où tu t'en vas. C'est la direction que tu as dans ta vie. Moi, je sais une chose, et parlez-en à ma femme, j'ai plein de choses à corriger dans ma vie. Mais je sais une chose, c'est que je sais où je veux m'en aller. Je sais où je veux m'en aller comme mari. Je sais où je veux m'en aller comme père. Je sais où je veux m'en aller comme berger, comme pasteur. Alors, l'Église du Sentier et ses membres de l'Église du Sentier, où vous vous en allez? C'est ça qui est important. Où tu veux aller? Donc, commencez pas à vous culpabiliser s'il y a plein de choses dans votre vie où vous n'êtes pas rendu, on ne sera jamais rendu. Un jour, c'est ça qui est le fun, hein? La sanctification, c'est un long processus, mais ce qui est le fun, c'est... Comment il s'appelle le frère qui est parti avec le Seigneur cette semaine, là? Robert. Hey, Robert, là, il a fait un sprint. Toute sa vie, là, il a progressé dans sa marche avec Jésus, là, mais lorsqu'il est décédé, là, il n'a pas été puni, il a été promu. Et là, waouh, il chante du gospel avec Saint-Pierre, puis là, il est parfait. Mais en attendant, c'est une direction où on s'en va. Et c'est pour ça qu'on voit dans l'Église d'Antioche un modèle d'une direction. Et on voit dans l'Église d'Antioche un mode de fonctionnement à imiter. Et c'est ce qu'on appelle... Ah, là, il faut que j'avance. C'est ce qu'on appelle le cycle paulien. On voit dans la vie de cette Église, on voit une Église qui est caractérisée par 5 verbes d'action. Envoyer ou implanter, rayonner. Je sais ici qu'il y a une petite nuance, vous faites une nuance entre rayonner puis annoncer, mais mettons-les ensemble ici pour le besoin ce matin. Renforcer puis équiper. Et on doit garder ces 4 verbes d'action-là dans chaque Église pour qu'elles puissent être en santé et en mission. Et ce qu'on voit de l'apôtre Paul, c'est que non seulement ils l'ont vécu à Antioche, mais ils l'ont reproduit dans toutes les églises qu'ils ont implantées. Ils ont reproduit le même cycle. Et c'est un cycle qui est difficile à garder en équilibre. Parce que certaines églises, ils vont être fantastiques pour rayonner. D'autres églises vont être fantastiques pour renforcer. D'autres églises vont être fantastiques pour équiper ou envoyer. Mais l'idée, c'est vraiment pour être en santé et en mission, c'est de garder d'une manière équilibrée. Donc, c'est ce qu'on est venu partager avec vos leaders, puisqu'on aimerait partager avec vous ce matin dans quelle mesure vous avez du travail à faire comme croyant. On en a toutes, comme je l'ai mentionné tantôt, en ce qui concerne de rayonner, en ce qui concerne de se renforcer, en ce qui concerne de s'équiper. Et pour le premier axe qui est de rayonner, j'inviterai mon frère jumeau, le directeur général de Sambec, qui va venir partager avec vous, frère jumeau, vous voyez, là, c'est... On a la même mère, mais pas le même père. Alors, c'est à toi, mon cher François.
Alors, il y a plusieurs choses qui ont sauté. Hein? les évidences d'une Église qui rayonne. Non, c'est ça là que je veux. On appelle ça « control freak » ou pas? Hein? Alors, une Église qui rayonne. Une Église qui rayonne, c'est une Église qui connaît les champs missionnaires dans sa ville. Il y a des endroits qui ont besoin de la lumière de Christ. Oui, toute la ville dans son ensemble, mais des fois, on peut cibler plus précisément est-ce qu'on est en train d'atteindre le milieu étudiant ou les résidences de personnes âgées ou les sous-groupes ethniques dans la communauté ou des milieux sociaux quelconques dans la ville. Allons répandre l'Évangile dans tous les champs missionnaires que comporte la grande région de Gatineau. C'est une Église qui développe et met en place un plan stratégique d'évangélisation. Il faudrait que l'Église puisse avoir accès à quelque chose de facile et de clair pour dire « si je veux évangéliser, qu'est-ce que je fais? » Que les ressources soient disponibles. On a parlé de ça ensemble, à toute l'équipe, avec vos leaders hier. Mais de pouvoir avoir un endroit où si on a besoin d'être équipé pour annoncer l'Évangile, la formation puisse être disponible, qu'on puisse aller avoir un encouragement à pouvoir savoir qu'il y a différents endroits où on peut aller évangéliser et que ce soit connu pour que chacun puisse le pratiquer. On veut aussi qu'on croit qu'une Église qui rayonne est une Église aussi qui définit et participe activement aux bonnes œuvres en cherchant à combler le besoin physique, spirituel, émotionnel de la personne entière. On a une action qui témoigne de l'amour de Christ d'une manière concrète pour les gens dans la communauté. Je sais que vous avez déjà de telles actions ici, mais peut-être Dieu prépare en quelqu'un d'autre ce matin le désir de dire « Dieu met quelque chose sur mon cœur ». Vous allez le partager à d'autres de l'Assemblée et peut-être avoir une action collective qui va permettre que vous puissiez manifester concrètement l'amour de Christ. Et le plus grand des amours, c'est celle qui répond au plus grand des besoins. C'est d'aller répondre à ce que l'âme a tant besoin, une réconciliation avec Christ lui-même. Une Église qui rayonne, c'est une Église qui a une stratégie pour former des disciples. On ne croit pas qu'on est appelé, lorsqu'on se convertit, à découvrir cette bonne nouvelle et ça s'arrête là. Non, découvrir la bonne nouvelle, c'est un cheminement de vie. Comme Louis a dit, on marche dans la direction de la ressemblance de Christ. Eh bien, si vous sentez que vous voulez marcher dans la direction de Christ, tournez-vous vers les ressources qui sont en place ici ou proposez des ressources pour que les gens puissent justement avoir cet accompagnement pour grandir. Une Église Antioche, elle compte sur un fort pourcentage. Elle compte sur un fort pourcentage de chrétiens qui parlent ouvertement du message de l'Évangile dans leur quotidien. Vous savez, on a mis l'accent dans la dernière décennie, avec justesse d'ailleurs, de développer des relations avec les gens. On ne projette pas une bonne nouvelle comme ça, comme si les gens étaient détachés complètement de leur vie. On entre en relation avec eux, on développe de bonnes relations avec eux. Mais il y a un temps aussi pour leur proposer de connaître Jésus-Christ. Peut-être que Dieu t'appelle cette semaine à offrir à tes collègues de travail de dire, je vais débuter un groupe avec 3-4 personnes qui va expliquer qui est Jésus dans l'Évangile de Marc en 3-4 rencontres. Est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés de connaître Jésus et son enseignement dans un groupe de discussion? Offrez cela. Qui sait va dire, moi, peut-être celui que tu penses le moins. Et il va être intéressé par cette offre-là, ou la prochaine fois. Mais pourquoi on n'offre pas aux gens d'étudier la personne de Jésus? Personne d'autre leur offre cette offre-là qui est essentielle à la vie. On veut un grand nombre de croyants qui partagent au quotidien. Vous savez, les pasteurs de cette Église sont certainement appelés à partager l'Évangile, mais une Église qui grandit, c'est une église dont les membres partagent l'Évangile autour d'eux. J'étais frappé dernièrement en lisant dans Jean 15 que Jésus parlait d'abonder. Et je me suis dit, on abonde quand on est tellement plein d'une bonne chose qu'on veut qu'on déborde et on la partage. Souvent, on voit l'évangélisation plus comme une tâche, alors qu'en réalité, si on se nourrit de Christ au quotidien et qu'on est rempli de cette bonne nouvelle-là, on va vouloir éventuellement abonder, déborder pour que ça se partage. Une église qui rayonne est une église qui, évidemment, identifie des évangélistes, des gens doués pour partager cette bonne nouvelle-là, non seulement elle les identifie, mais elle les aide à pouvoir aider d'autres autour d'eux à apprendre à partager cette bonne nouvelle-là. C'est une église aussi qui alimente ses efforts d'évangélisation en collaborant avec les moyens et les supports qui sont disponibles, entre autres au sein de l'association. Pour la jeunesse, vous le faites ici déjà, vous utilisez Mouvement Jeunesse avec Dominic King pour pouvoir aider la jeunesse à être équipée à devenir des formateurs de disciples. J'aime mon voisin. Il y a les aumôniers aussi qui sont disponibles pour aider. C'est une église, justement, qui va utiliser les ressources pour pouvoir être fortifiée et accompagnée dans cette collaboration-là. C'est une église qui attire, accueille et intègre intentionnellement les visiteurs. Je vous dirais ce matin, ce qui vous concerne avec ça, c'est aller. Allez vers les nouveaux. Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la section où vous êtes assis ce matin, allez lui dire bonjour. Accueillez-le avec amour. Souvent, on pense que c'est compliqué d'aller vers un nouveau, ça nous gêne. On a juste à dire comment ça va. Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Quelques questions de base et on entre en relation. Invitez-le à manger chez vous et vous allez rayonner. Si l'Église se met à s'accueillir les uns les autres, vous allez déjà être dans ce grand processus de générosité et d'accueil qui se manifeste. J'invite Louis à venir continuer.
Merci François. Alors rayonner, comment est-ce que je peux rayonner? Moi, dans ma vie personnelle, je travaille que avec des chrétiens. C'est compliqué, puis ça, d'une certaine façon, ça me frustre parce que je n'ai pas l'occasion de partager souvent ma foi. Alors ma prière depuis quelques mois, c'est « Seigneur, je veux un bébé ». Pas compliqué? Voulez-vous prier avec moi? Seigneur, je veux un bébé. Je veux conduire quelqu'un à l'Évangile. Ça concerne tout le monde. Puis ça, je l'ai fait quelques fois dans ma vie, puis c'est tellement « wow ». Ça, c'est la vie, ça, conduire quelqu'un à l'Évangile. Donc, pensez à ça, comment est-ce que vous pouvez y contribuer. Alors, prochain axe qu'on voit dans le cycle paulien, on a l'idée de renforcer, c'est-à-dire que l'apôtre Paul n'a pas seulement rayonné, il n'a pas seulement implanté, mais il a renforcé, qu'il a passé du temps avec les personnes pour qu'elles deviennent plus fortes. Il était concerné par leur croissance spirituelle. Alors, c'est pour ça que pour nous, une église Antioche qui se renforce, elle se renforce lorsqu'elle cherche à améliorer ses relations interpersonnelles, lorsqu'elle planifie, s'évalue et se corrige avec imputabilité, lorsqu'elle s'organise de façon intentionnelle dans sa croissance et sa formation de disciples. Donc, comme on a dit tantôt, on est dans un processus de transformation. On va le terminer seulement lorsqu'on va être promu dans la gloire. Mais en attendant, c'est où j'ai du travail à faire? C'est quoi les domaines? Et ma femme est bonne là-dedans pour nous ramener, à me ramener à terre, puis notre couple, où on a du travail à faire, mon amour? Et là, des fois, je n'ai pas le goût, hein? Ça ne me tente pas de rentrer là-dedans, là, dans des histoires que ça fait 40 ans que ça dure, là. Mais c'est nécessaire. Dieu ne veut pas qu'on stagne. Stagner, là, c'est la mort. Alors, où sont le travail que j'ai à faire dans mes relations interpersonnelles? J'ai un ami qui dit « Tu ne me changeras pas à mon âge. » Mais j'ai des petites nouvelles pour toi, moi. Tu peux apprendre à faire des nouvelles choses, tu peux travailler les choses, ça dépend de ce que tu veux. Où il y a des choses, comme on a discuté hier avec les leaders, où il y a des choses qu'on a besoin de renforcer dans l'Église. C'est pour ça que on a un outil qu'on utilise et qu'on est en train d'utiliser avec votre Église qu'on appelle le parcours vitalité. C'est un processus qui concerne toute l'Église. Je ne sais pas exactement où vous êtes rendu dans ce parcours-là, mais vous allez en entendre parler souvent parce que c'est un parcours qui va durer 2-3 ans. où ça concerne toute l'Église. Pas juste les leaders, mais toute l'Église. On a besoin de chercher la face de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Qu'est-ce que tu veux travailler dans l'Église, le sentier? Où tu veux qu'on aille? Qu'est-ce que tu veux qu'on change? On ne veut pas juste être une Église d'apparence, on veut être une Église en santé et en mission. Alors, c'est pour ça que les évidences d'une Église qui veut renforcer, on va voir premièrement qu'elle maintient la parole de Dieu au centre de sa foi, de sa doctrine, de son enseignement et de son comportement. On ne veut pas faire de l'entertainment, on veut vraiment fortifier la foi des disciples et la foi des disciples est fortifiée avec la parole de Dieu. On veut expérimenter une alliance relationnelle pour vivre l'unité et la conserver en tout temps. Je me souviens d'une église, où, la première église qu'on a commencé à faire le parcours Vitalité, c'était une petite église, pas très nombreuse, une quarantaine, 50 personnes. Et lorsqu'ils ont commencé à faire le parcours, ils ont vu qu'il y avait plein de problèmes relationnels non réglés. Wow! Et vous savez quoi? L'Évangile, ça règle les problèmes relationnels. Quand on comprend l'Évangile, quand on comprend le pardon de Dieu, quand on comprend qu'est-ce que Dieu a fait avec sa justice pour qu'on soit réconcilié avec lui, ça nous donne tellement plein d'espoir dans nos relations pour pardonner les autres, pour vivre une vraie intimité. Elle met en place un plan de croissance et de formation de disciples de Christ. Et hier, on a parlé, je ne me souviens pas comment il s'appelle, ce programme-là, en 4 étapes. C'est exactement ça. Puis se poser la question, où je suis rendu, puis dans lequel, moi, je vais m'impliquer. Ou encore, implante un système d'identification et de formation des leaders. Vous avez ça aussi à l'église ici, c'est fantastique. J'ai été dans des églises où, même après 30 ans, ils n'ont pas été capables de se reproduire. Il n'y a pas d'anciens, c'est pathétique. Possède un plan d'intégration pour tous les membres de l'Église dans les différents ministères, que j'ai un rôle à jouer, comme je l'ai dit tantôt, l'Église, c'est l'expression de tous ses membres. Et comme l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 12, il dit qu'on a besoin de tous les membres. Et c'est encore intéressant, il dit qu'on a besoin des faibles. J'aime ça, cette idée-là. Les gens peuvent dire, ah, moi, je suis tellement poqué, l'Église n'a pas besoin de moi. Non, non, l'apôtre Paul, il dit le contraire, il dit que même dans ta faiblesse, tu contribues à l'Église. Elle met en œuvre une vision convaincante qui honore Christ. J'ai le privilège d'enseigner les cours de leadership et là, ce que je vois, c'est qu'il y a tellement peu d'Églises qui ont une vision, où ils veulent aller. Si tu n'as pas une vision, c'est quelqu'un d'autre qui va partager sa vision. Alors, on a besoin d'être commun, de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour notre Église? C'est pour ça, tantôt, le parcours vitalité, Saint-Esprit de Dieu, où tu veux nous conduire? Adresse les conflits de manière constructive. On ne va pas les fuir, mais on va y faire face. Reflète la diversité de sa communauté, que l'Église est l'expression de sa communauté. Si dans votre communauté ici, vous avez beaucoup de jeunes familles, j'espère que l'Église du Sentier a beaucoup de familles. Si vous avez une société multiethnique, j'espère que l'Église du Sentier reflète sa communauté. Démontre une saine gestion financière, qu'on n'a pas peur de parler d'argent, que l'argent est un indicateur de notre santé spirituelle. Et finalement, organise des structures pour être efficace dans la prise de décision et rend imputable à l'Assemblée. Alors, on n'a pas un leadership qui fait ce qu'il veut, mais qui est capable de partager à l'Église ce qu'ils sont en train de faire, puis qu'ils rendent compte pour la direction qu'ils font. Encore une fois, où êtes-vous rendu dans ce processus-là de vous renforcer? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez besoin de décider pour votre mariage, pour votre famille, pour votre Église? Encore une fois, l'Église, c'est le reflet de ses membres. J'invite François pour la prochaine axe, équipé. Ça te concerne beaucoup.
C'est une Église qui forme. C'est une Église qui, entre autres, soutient son centre de formation et vous le faites ici. Sembec est soutenu financièrement par l'Église de Sentier. On en est vraiment content. Je vous dis merci au nom de toute Sembec. Mais c'est une Église qui possède un plan clair et détaillé pour former des leaders. On en parlait hier et il y a plusieurs initiatives qui sont prises au Sentier ici pour former des leaders. Bien sûr, on peut en parler davantage, on peut connaître davantage qu'est-ce qui se fait, mais vous pouvez questionner et savoir comment je pourrais être formé pour aider et soutenir un leader qui est déjà en place dans un ministère ici. C'est une église qui développe une culture de formation. Ça, c'est très important. Une culture de formation, c'est quoi? C'est on est habitué de voir un leader venir avec quelqu'un avec lui en qui il est en train de s'investir. Une culture de Paul avec un Timothée. Une culture où c'est normal qu'on peut voir des gens en train de s'investir dans la vie des autres et on trouve ça acceptable. On ne réagit pas à ça. C'est une église qui donne le droit à l'erreur. Quand on forme quelqu'un, on sait qu'il va se tromper, mais on va l'aider à se relever. On est une église qui donne une culture de grâce, qui permet l'apprentissage, qui accompagne, qui relève, qui fortifie. Ça, c'est une belle culture d'église. On encourage la jeunesse à s'impliquer. On encourage les gens à apprendre. On expose. On ne visite pas seul. On forme des gens à venir avec nous, à nous accompagner. C'est une église qui forme des anciens. C'est-à-dire qu'il y a une relève. Dans l'ancienne, Louis en parlait. Ce n'est pas une bonne nouvelle quand l'église ne peut pas renouveler ses anciens. Donc, l'église identifie, recrute, donne l'occasion à des gens d'apprendre et de pouvoir porter la charge de l'ancien qui est bien définie dans les épîtres pastorales. C'est une église qui est engagée dans la formation de conseillers bibliques, de gens qui peuvent faire de la relation d'aide. C'est une église qui forme des aumôniers qui peuvent rayonner dans la communauté. C'est une église qui aide à former des leaders pour être en la mission, dans les communautés en mission, des leaders de projet, des diacres, des diaconesses, des trésoriers, et on en forme assez pour en donner quand vient le temps d'envoyer. Ça, c'est la vision. On ne vise pas former juste pour combler nos besoins actuels. On prie et on demande à Dieu de pouvoir élargir les tentes, comme on lit dans Ésaïe, qu'est de quelque chose qui grandit et on veut y préparer en ayant les gens pour le faire. C'est une église qui cherche toujours, par la grâce de Dieu, à former des étudiants dans les programmes de théologie disponibles dans leur région. Je vous encourage à pouvoir considérer sérieusement prier. Vous avez eu des Alex Farley, vous avez eu des Dominique. Mais ça commence à être vieux, ces gars-là. Là. Right? Ça commence à être vieux, ces gars-là. Là. Ça en prend d'autres, puis des femmes aussi, qui embarquent dans des projets de formation pour être équipées et servir selon leurs dons. Mais on a besoin de jeunes hommes aussi qui considèrent prendre le leadership des églises. Alors, priez que des jeunes puissent, à l'aide de leur pasteur, s'inscrire. Peut-être c'est toi ce matin, je ne connais pas l'Assemblée, mais il est peut-être le temps de le faire. Il nous reste 3 minutes, monsieur le directeur.
Tu restes avec moi.
Ouais.
Ouais. On termine avec... Tu n'es pas trop fort sur la manette, là.
Non, moi, je ne suis pas bon que ça.
Non, OK.
Moi, d'habitude, je ne contrôle pas. Je laisse ça aux gens qui s'en occupent.
Tu veux dire que je suis free control, c'est ça? Tu as raison. Je veux que tu restes avec moi.
Oui.
Et naturellement, on termine avec implanter. Implanter... c'est pas toujours facile. On dit que seulement 5% des églises à travers l'histoire vont avoir le privilège de devenir une maman. C'est pas beaucoup, ça. C'est moins de 1%. Alors, est-ce qu'on peut rêver ensemble que l'Église du Sentier va devenir une maman dans les prochaines années? Ça serait vraiment fantastique. Puis, mon expérience à Mascouche, c'est qu'on a travaillé à l'implantation de cette église. Puis, ça n'a jamais empêché la croissance de l'Église, au contraire. Ça l'a excité les gens d'avoir une vision qui est plus grande qu'eux et de pouvoir contribuer à devenir une maman. Alors, la vraie question, on termine avec ça. J'aimerais ça que tu pries après moi, François. C'est quel rôle tu peux jouer, toi, dans ce rêve? Ou qu'est-ce que tu peux jouer dans ce qui concerne de rayonner? Quel objectif, un objectif tu pourrais te mettre? qu'est-ce que tu pourrais faire dans renforcer un objectif, équiper? Et comment tu pourrais travailler un projet d'implantation ou prier pour que des gens partent et qu'on puisse voir la multiplication d'Église? François?
Éternel, nous voulons te remercier d'avoir bâti l'Église. Tu en es le fondement. Ta mort et ta résurrection a instauré cette nouvelle ère dans laquelle nous sommes. L'Église, c'est ton œuvre. C'est ton épouse. C'est ce que tu chéris. Et nous sommes l'extension de ton œuvre après la résurrection ici à Gatineau pour les gens qui sont ici. Je te prie, Seigneur Dieu, qu'on puisse voir une Église Antioche. C'est notre rêve et c'est le rêve des dirigeants de l'Église ici. Seigneur, peut-être qu'on traverse des temps difficiles des fois, individuellement ou en Église, mais nous savons que tu relèves. Tu es toi-même le grand formateur. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour la santé et la mission, pour que chacun, ce matin, s'identifie à une chose qui a été dit et puisse grandir. On t'en prie, dans le beau nom de Jésus, mort pour nous. Amen.
Amen.